pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, et comme tous les vendredis soirs, avec l'Envolée. Vous pouvez nous joindre au 07 53 10 31 95, nous écrire au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook et tous les réseaux sociaux. Il y a bientôt le numéro 54 de l'Envolée qui va sortir, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit pour les personnes à l'intérieur.
Et donc là, on va revenir dans cette émission. Bah déjà, merci Arthur pour la présentation. Salut tout le monde, c'est Alex. Du coup, on va revenir un peu dans cette émission sur les luttes dans les centres de rétention et particulièrement des révoltes qui ont eu lieu ces dernières depuis un an. On va revenir dans un long entretien avec un prisonnier qui était au Ménil-Amelot en janvier, qui a été inculpé et accusé et condamné pour avoir soi-disant participé à l'incendie de deux bâtiments en mi-janvier 2020. C'est un procès dont on avait pas mal parlé, qu'on a pas mal suivi, où on était présent au rassemblement, dans le tribunal c'était pas possible parce que soi-disant sous le Covid les débats ne sont plus publics, mais en tout cas c'est un procès dont on a beaucoup parlé. Il y a eu des peines de prison assez lourdes et on revient avec lui sur comment s'est passé, enfin c'était quoi le contexte dans les jours précédents, parce qu'il y a tout ce moment du prolongement de la rétention qui passe de 3 mois à 6 mois à 9 mois, Et après, on revient avec lui sur bah, voilà, la révolte, la répression, les comportements des keufs, la manière dont la direction du CRA et les keufs, ils ont toujours un truc pour se défausser de toute responsabilité, mais en même temps essayer de faire croire à un espoir qui permette quand même de maintenir la soupape quoi, de la révolte. Des trucs que nous, on connaît et qu'on... On a beaucoup raconté sur Fabrice Borromée, sur Kémy à Saint-Maur, sur Yuri, dont on a beaucoup parlé aussi en septembre dernier dans cette émission et qui aujourd'hui est à Vendin, on pense à toi. Et on lâchera pas aussi, on fera toujours attention à ce qui se passe pour toi, donc voilà, que la paix de Vendin le sache, quoi. Donc ça, ce sera toute la deuxième partie de l'émission et la majorité de l'émission, en vrai, pour être honnête. Mais avant ça, on voulait revenir un petit peu sur quelque chose qui s'est passé à Hendaye. Hendaye, c'est un centre de rétention qui est à la frontière entre la France et l'Espagne, en plein Pays Basque. En plein Pays Basque. Et du coup, c'est un centre de rétention où il y a souvent des révoltes. Juste pour rappel, pendant le dernier G7 ou G20 là, qui a eu lieu à Biarritz, le centre de rétention avait été vidé et transformé en locaux de garde à vue. Donc c'est un centre de rétention de 26 places qui permet d'enfermer principalement les personnes qui ont franchi la frontière ou qui se sont fait arrêter parce qu'elles travaillaient ou qu'elles vivaient dans le Pays Basque, et après d'essayer de les expulser. Bon voilà, donc c'est une prison pour sans-papiers. C'est une prison pour sans-papiers où il y a eu beaucoup de révoltes, parce que bah voilà, c'est les nouveaux locaux, c'est particulièrement vénère, les équipes de keufs sont racistes, enfin voilà, comme dans beaucoup d'endroits. Et en septembre dernier, nous on avait fait part du fait que bah là, dans une période un peu mouvementé dans plein de centres de rétention, il y a eu plein de mouvements de lutte, plein d'évasions pendant l'été, des mouvements collectifs, etc. Il y avait eu un incendie au centre de rétention de Hendaye qui avait provoqué la fermeture du centre de rétention. Juste, qui dit fermeture d'un centre de rétention de 26 places dit en fait de septembre à début décembre qu'on a empêché l'État français d'enfermer encore plus des étrangers et des étrangères, des personnes qu'il avait désignées ou créées comme sans papier, quoi. Et donc ça, c'est voilà, ça déjà, c'est important, quoi. Donc il y a une personne qui est passée au tribunal récemment pour cet incendie. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il était en taule avant, qu'il a été placé au centre de rétention, ça se passe mal, il essaye de mettre fin à ses jours, pas comme un appel à au secours, quoi, mais vraiment comme une tentative de mettre fin à ses jours, il fout le feu à son matelas, et du coup, voilà. C'est un keuf qui vient à Skip, hein, selon la version officielle, qui vient et qui le chope. Nous, pourquoi on dit à Skip selon la version officielle? Parce que nous, on n'a pas été en contact direct avec les prisonniers et prisonnières, enfin les prisonniers en question, quoi. Et que du coup, là, ce qu'on va relayer, c'est un article de la presse locale, mais qu'on va commenter parce que ça nous semble important. Voilà, là, j'ai mis des on et des nous, mais ça va être beaucoup un jeu, en fait, pendant les 10 premières minutes de l'émission. Et après, on va rebasculer, parce que c'est un enregistrement, on va basculer dans une discussion un peu plus collective. Donc... En fait, il y a un keuf qui soi-disant le tire des flammes, etc., etc. Il y a 4 keufs qui vont se porter partie civile. Lui, il est poursuivi pour avoir mis le feu à sa cellule. Et une des phrases qui est citée de la juge, une des citations qui est citée de la juge qui est dans l'article, en fait, c'est la juge qui se permet de dire « Mais vous savez, vous avez de la chance, parce que si une autre personne était morte, là, la peine que vous risqueriez aujourd'hui, c'est de la perpétuité. » Donc, en fait, elle est face à quelqu'un que l'État a enfermé, en prison, puis en centre de rétention, que l'État a poussé à bout et qui a essayé de mettre fin à ses jours. Et elle, sa réponse, c'est « Mais en fait, t'as de la chance parce que t'es pas mort et on va pas t'envoyer en prison à perpète. » Les réquisitions de la proc, c'est quand même 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme pour avoir essayé de mettre fin à ses jours. Donc en fait, si la personne elle a essayé de se suicider, on rappelle qu'en fait, les suicides... Déjà à l'extérieur, et ben voilà, ils ont quand même beaucoup de causes sociétales, etc. Il y a des responsabilités qu'on pourrait attribuer si on se creusait la tête. Mais à l'intérieur, la responsabilité des suicides et de faire attention aux personnes qui vont suicider, elle est très claire. Les gens, s'ils sont enfermés, s'ils sont en taule, en centre de rétention, etc., c'est jamais de leur propre volonté. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, c'est l'État français. Que ce soit par des matons de l'administration pénitentiaire, par des policiers de la PAF, c'est toujours l'État français qui enferme. Et ces gens-là, du directeur au sous-fifre du PAFE là, ou du maton... En fait, c'est eux qui ont la responsabilité des gens. Et ils savent très bien quand les gens vont mal. Parce qu'en fait, il y a un tas de caméras, parce qu'il y a un tas de rapports qui sont faits, qu'il y a un contrôle permanent des corps et des gens. Et du coup, en fait, ils savent quand quelqu'un va pas bien. Et donc, quand ils ne font rien, et en fait, la seule chose à faire, ce serait de le libérer, mais quand ils ne font rien, en fait, c'est eux qui ont la responsabilité de la mort. Et évidemment, c'est pas eux qui passent au tribunal aujourd'hui, mais c'est lui qui passe au tribunal. Et ça, c'est très grave, quoi. Ça, c'est vraiment très grave. Il y a 4 flics qui se permettent d'être partie civile. Quand on dit qu'ils se permettent d'être partie civile, c'est-à-dire qu'il y a 4 flics qui comme un comportement de keuf classique quoi, vont réclamer des thunes en fait à ce gars-là là qui est en train de qui va remanger une peine de prison et sûrement après ça une peine de centre de rétention voire une expulsion selon les rapports entre l'État français et le Maroc à ce moment-là quoi puisque il le désigne comme marocain. En fait, ces quatre flics, ils vont demander des thunes. Voilà, ils vont refaire leur 13e, 14e, 15e, 16e mois. Toutes ces thunes qu'ils vont racketter aux pauvres et que l'État français couvre. Comme si toutes les augmentations qu'ils avaient obtenues suite à leur mouvement de FAF là, de ces dernières années n'avaient pas suffi, en fait. Voilà. Et donc, ces quatre keufs qui vont essayer de se désigner comme des héros hein, pendant le tribunal parce qu'ils sont allés respirer de la fumée pour sauver des gens, on rappelle que c'est leur taf, en fait. C'est leur taf de, extraire quelqu'un des flammes s'il est sous leur responsabilité parce que c'est eux qui ont fait les matons et qui l'ont enfermé dans ces murs-là. Donc c'est leur taf. Donc ils vont pas en plus essayer de nous arracher une larme quoi. C'est exactement de la même manière que tous ces keufs qui font les victimes en permanence ou tous ces matons qui font les victimes en permanence en disant mais pourquoi on est ciblés alors que c'est les hommes en armes de l'État qui passent leur temps à cibler ceux que l'État a désignés comme des cibles justement et qui se demandent pourquoi c'est eux qui prennent en retour. Mais en fait c'est leur taf non seulement d'être violent mais d'être la cible des mécontentements des gens quoi. Donc il faut arrêter de nous jouer le truc de la victime. Un CRS qui prend qui tombe ou qui se prend un bout de sa grenade en manif, c'est son taf, c'est sa responsabilité, c'est pas notre histoire à nous quoi. Donc il va pas en plus venir pleurnicher dans un tribunal quoi, ça va tu vois. Enfin il y a peut-être un moment où faut mettre des limites à tout ça. Mais bref. Du coup, ce qui se passe, c'est que la proc elle demande 2 ans ferme. Le juge lui va plus loin en fait. Le juge, lui, il va donner 3 ans ferme et 10 ans d'interdiction de territoire. On rappelle qu'une interdiction de territoire au pénal, ça se conteste que si t'es en prison ou que si t'as été expulsé. Et donc, en fait, ça veut dire que la personne, là, son interdiction de territoire, elle va commencer le jour de son expulsion. Et sinon, en attendant, elle sera désignée comme illégale, maintenue dans un statut d'illégalité, quoi. Et donc, en fait, c'est grave. Parce qu'en fait, le juge qui fait ça, c'est très certainement un juge qui passe son temps à condamner des gens qui sortent de centre de rétention, de prison. Lui, il va plus loin encore que les réquisitions de la proc qui sont déjà intenses, en fait. Et donc, on relance cette personne dans une boucle d'enfermement comme ça, quasi infinie, quoi. Il y a un autre truc qui est dégueulasse. Bon, dans cette... Tout est dégueulasse, hein, globalement, dans cet article. On voit bien que les journalistes, ça sait très bien se faire le relais de la préfecture, des keufs et des juges, quoi. Mais donner la parole au premier concerné, c'est rare, quoi. C'est le tribunal de Bayonne, hein, où tout ça se passe. Donc évidemment que c'est un tribunal qui vit grâce aux keufs du coin, donc aussi au centre de rétention et aussi au taule. Il y a un autre truc qui est dégueulasse. C'est qu'en fait, le deuxième paragraphe de cet article, c'est pour rappeler son casier judiciaire. C'est pour rappeler son casier judiciaire et lui mettre l'étiquette de pointeur. Voilà, nous, on n'est pas juge, tout ça, donc en fait, ça ne nous concerne pas. Mais par contre, c'est encore plus dégueulasse, quoi. C'est parce que c'est comme si, du coup, le fait qu'il ait tenté de mettre fin à ses jours, le fait qu'il ait pris particulièrement cher en tôle, parce que, évidemment, les pointeurs, c'est pas les personnes qui vivent le mieux leur détention avec d'autres personnes, quoi. En fait, c'est une nouvelle manière d'essayer de rendre tout le monde juge, quoi, en disant, cette personne, elle aurait pu crever, mais en fait, c'est pas très grave, parce que c'est un pointeur, quoi. C'est toujours ce rétablissement, comme ça, un peu en soum-soum, quoi, de la peine de mort, quoi. Bah ouais, lui, s'il se suicide, mais vous inquiétez pas, c'était un pointeur, c'était un terroriste, tout ça. C'est des gens qu'on peut se permettre, par exemple, pour les terroristes, d'exécuter en pleine rue, en fait. C'est le rétablissement de la peine de mort, quoi. Et là, c'est pareil avec ce genre d'articles qui mettent en avant, comme ça, qui essentialisent les gens avec un casier judiciaire qui va les suivre toute leur vie. En fait, ce gars-là, c'est pas pour se mettre de son côté sur ce qu'il a fait, etc. C'est pas la question, puisque nous on n'est pas juge, on n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé avant, etc. Juste en fait, cette personne-là, si elle va au tribunal ce jour-là à Bayonne, et je pense que ça c'est par contre très important de le rappeler, s'il va ce jour-là au tribunal à Bayonne, c'est parce qu'il a mis feu à sa cellule, quoi. Et donc ça n'a rien à voir avec les histoires de condamnation antérieure. Et c'est grave, en fait, que les journalistes se permettent d'être comme ça des mini-juges supplémentaires et de jeter comme ça les gens à ce qu'ils aimeraient être une vindicte populaire, quoi, un énervement en disant « Ah, ce gars, c'est un pointeur, barre-toi, etc. » Et voilà, et moi, je pense que ça, c'est grave, parce qu'en fait, on n'est pas dans une société qui a un manque de juges, en fait, au contraire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de juges et qu'on invite plutôt tous les juges actuels à démissionner et à quitter ce système pour arrêter d'en être complices, quoi, comme tous les keufs, comme tous les matons, enfin, comme tous ceux qui appartiennent à ces corps armés de l'État, quoi. Voilà, et du coup, Je sais pas si je résume très bien les discussions qu'on aurait pu avoir si on était plusieurs autour de ce micro, mais enfin voilà. En fait, juste plein de force à toi parce que malgré tout ce que t'as fait, on est content que tu t'en sois sorti et ça a permis la fermeture de centres de rétention pendant 2 mois. C'est toujours ça de pris sur la politique d'enfermement de masse des étrangers et étrangères en France. Et ça va nous permettre de faire la transition aussi avec ce qui s'est passé au Ménil-Amelot, parce que c'est aussi un incendie, c'est aussi de la répression, et c'est aussi des fois des années de prison qui tombent. Voilà. Et sauf qu'au Ménil-Amelot, c'est une action collective et qu'il y a aussi de la solidarité de dehors, et du coup, ça crée d'autres dynamiques, et c'est pas forcément le même résultat, mais en tout cas, il se passe plus ou moins les mêmes choses, quoi. Donc là, on va vous passer à un enregistrement, et avant ça, on va peut-être vous rappeler que donc pendant toutes les vacances, vous pouvez nous appeler au 07 53 10 31 95, que vous pouvez nous écrire à contact@l'envolée.net ou au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. Et je rappelle aussi que toute la semaine, de midi à 13h, il y a eu des rediffusions du podcast sur le procès de Sambali, des matons qui ont tué Sambali à Saint-Martin-de-Ré en 2016, procès qui a eu lieu là fin novembre, et qui sont disponibles sur le site de l'Envolée et sur le site du coup a priori de FPP. Voilà, et ben on souhaite plein de force à tout le monde. On sait que la période elle est pas facile, c'est le 24 décembre, c'est la merde. En tout cas, c'est le 24 décembre que c'est diffusé. Plein de force à tout le monde. Je rappelle que c'est la rediffusion, c'est mercredi matin 8h30 et que dans tous les cas, il n'y a pas d'arrangement. Force.
I only play old music in my old car. Counting new money inside my old loft. It was a renter on, I fell in love with the spot, so I bought. Throw them 90-inch TVs up on the wall. My homie hooked up the surround sound and he hid the cars. Did the surveillance, I could keep an eye on all my cars. I went to Rose Crib, this nigga rich. He got whips and garages organized by colors and shit. I was inspired by this. I went back to the grind for the first time in years. I wrote raps on my flight. Kicked it at my house that night. Got crazy high thinking about how I could expand mine. Put the team on the same page at the same time. Then split up and close in on the game from all sides. Crush them motherfuckers. Dudes on mushrooms think they could touch us without repercussions. This work comes with something. Saturday in the rows, reminiscing about how I came up gradually over time. I prayed to God for it, but he made me wait. Had to condition my spirit so that it wouldn't break. Now I'm hella straight, a state behind iron gates. Having my cake and eating it too. Saying grace, thankful for the food. Chrome Dayton's on my 62. Sunroof, the fresh interior, my engine tuned. Sunday driver, though I slide that bitch on Mondays too. Every day the same to you, once you touch enough loot.
C'est une émission un peu particulière, c'est les émissions de fin d'année. Du coup, on a fait un enregistrement plus tôt dans l'année. Et on va commencer d'abord par revenir sur l'incendie qu'il y a eu au Ménil-Amelot il y a maintenant un peu moins d'un an, c'est à mi-janvier 2021. Et donc, suite à ça, il y a 7 prisonniers qui vont être inculpés. Et il va y avoir un procès qui va se tenir quelques mois plus tard, en mars, et des peines de prison allant de, je crois, 4 mois à 16 mois ferme, et une personne qui va prendre 12 mois avec sursis qui était sous contrôle judiciaire. Du coup, en fait, on voulait revenir un peu sur cette révolte. On en a pas mal parlé au moment où elle a eu lieu, puis dans les mois qui ont suivi. Et on voulait revenir un peu là ce soir avec toi, parce que toi, tu as été inculpé pour ouais. cette révolte. Ce qui ne veut pas dire que tu as participé ou quoi, mais en tout cas, eux, ils t'ont inculpé et ils t'ont condamné.
Oui, j'ai été condamné en plus.
Pour ça, et on voulait revenir du coup un peu sur déjà comment ça se passait au Ménil-Amelot avant, au début 2021. Parce que c'est un moment aussi un peu particulier quoi, dans l'ambiance qu'il y a dans les centres de rétention. Quoi.
En fait, ça c'est en fait avant. Bon, moi c'était ma première fois que je faisais le centre de rétention. Je ne connaissais rien sur les centres de rétention auparavant. Première fois où quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'était en fait c'était comme un zoo. C'était comme un zoo humain. Où il y a des humains qui sont à l'intérieur, qui sont traités. On va pas dire pour le respect de l'être humain, on peut pas dire que comme des animaux. Mais c'était presque ça, quoi. Et il y a des gardiens, comme dans un zoo, un gardien qui garde tout ce qui bouge à l'intérieur. Ça se passait du mal, comme on dit, du mal au mauvais. Ça n'a aucun sens ce qui se passe là-bas. C'est du n'importe quoi. C'est du vraiment n'importe quoi au bon sens, quoi. Ouais, c'est...
Parce que ça, en fait, c'est un moment un peu particulier, parce que la fin de l'année 2020, qui a été, où il y avait le Covid, la pandémie, tout ça, enfin, qui ont toujours lieu, quoi, mais, et le début de l'année 2021, c'est aussi un moment où il y a quasiment plus d'expulsions qui sont possibles pour l'essentiel des pays, quoi, sauf avec un test PCR négatif.
Quoi. Ouais. Avec un test PCR ou je sais pas ce qu'il y avait le vaccin en ce moment-là, mais je crois que soit tu fais un test PCR.
Ouais, à l'époque, il n'y a pas encore le vaccin, ouais.
Ouais. Donc, soit tu fais un test PCR et tu rentres chez toi. Si tu fais pas le test PCR, au bout de trois refus de test PCR, tu passes à la case du prison. Donc le test PCR est devenu en fait comme un délai, quoi.
Tu vois, c'est super crois. Grave parce que ouais. Normalement le test PCR c'est pas pour c'est pour savoir justement si il y a la maladie, mais eux ils veulent vous faire le test PCR pas pour savoir si vous êtes contaminé ou pas, puisque quand il y a des contaminations à l'intérieur, ils en ont strictement rien à foutre.
Non, les conditions de vivre à l'intérieur, ils ont rien à voir avec la santé de soi.
C'est ça.
Ouais,
c'est vraiment pour leur rendre service à eux et pour pouvoir vous expulser en vrai.
En fait pour donner pour vous donner une petite idée, c'est comme... en fait, la chambre, c'est un sas. Vous voyez, tu as deux portes.
Okay.
Tu as une porte qui s'ouvre vers la cour et tu as une autre porte qui s'ouvre vers un petit couloir qui ramène je sais pas, vers les toilettes et tout. Et je vous raconte pas comment vous pouvez dormir.
Est-ce que c'est des portes, je suis une ancienne prisonnière, donc je connais un peu la tôle, mais est-ce que c'est des portes comme des prisons qui sont gérées automatiquement?
Non, c'est des portes qui ne se ferment pas.
D'accord.
C'est des portes qui ne se ferment pas. Il faut trouver des petites astuces pour les fermer. Okay. Voyons, on les fermait avec des draps, mais c'est des portes qui ne se ferment pas. Et au mois de janvier, surtout le mois de janvier passé, et la neige, elle a fait moins de zéro. Donc je ne raconte pas le froid qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Et on vivait avec ça. Bon, la saleté, on ne raconte pas. Il y a des agents de nettoyage qui viennent nettoyer. Mais ouais, il n'y a pas un surveillant derrière eux.
En fait, ils viennent nettoyer, ils viennent passer un coup de serpillière et après ça arrache.
C'est là où tu vois, c'est tout. C'est là où tes yeux peuvent voir. Ils nettoient juste de là. Ouais, par exemple, sur le lit, tout, si tu passes sur le lit, tu as de la poussière, tu as les trucs des araignées. Ouais, genre, ouais. Tu dors, tu te réveilles avec le nez bouché, tu es bouché complètement en fait. Ouais, donc la santé, c'est rien à voir avec eux.
Non, c'est le test PCR, il a juste fait pour pouvoir vous expulser parce que c'est la règle. Voilà.
C'est tout. Et si tu ne le fais pas, ben, tu repars en prison. Et quand tu finis la prison, tu reviens au centre de rétention.
C'est un cercle vicieux.
Et ça finit pas, en fait.
Et quand c'est pas la case prison immédiatement, en tout cas, c'est des interdictions de territoire qui sont données. Dans le cas du Ménil-Amelot, il me semble que début janvier de l'année dernière, il y a genre une trentaine de personnes qui sont concernées par des interdictions de territoire qui vont prendre en... comment ils appellent ça? Les CRPC. Donc c'est les... en gros, c'est les moments où il y a une négociation de la peine avant qu'il y ait un jugement, quoi. Et du coup, le procureur, enfin la procureure, qui d'ailleurs a été la procureure là, du jugement la fin de mars, là, et ben en fait, le parquet à Meaux, ils ont tendance à donner des interdictions de territoire aux gens en disant « vous inquiétez pas, comme ça, vous n'allez pas en prison ». Mais l'interdiction de territoire, ça permet de justifier un nouveau placement en centre de rétention. Et du coup, il y a des gens, depuis un an, quoi, qui font 6 mois de centre de rétention. Là, récemment, il y a quelqu'un qui a fait plus de 9 mois de centre de rétention d'affilée.
Ouais, moi, j'avais des gens avec moi qui ont fait plus de 6 mois. Ouais, c'est des gens qui étaient là, en fait. Ils sont habitués au centre de rétention, en fait. Ouais, ils sont habitués à cette ville. Ouais, force de rester là-dedans, de rester dans un carré, de tourner dans un carré, de manger de même pas 100 grammes à midi, pareil, à 6 heures en fait, on mangeait. Ouais, genre, tu manges à 6 heures au mois de janvier qui fait moins zéro, et même pas 200 grammes. Frère, tu t'habilles comme tu veux, t'as froid. T'as froid à l'intérieur de toi, tu vois, tu meurs, t'es bleu en fait. Ouais, t'es à l'intérieur comme un Walking Dead.
Ils donnent juste la dose pour pas que tu meurs de faim, quoi.
Exactement. Tu vois. Et quand tu parles avec eux, j'ai déjà parlé avec, avec un responsable là-bas. Il me dit que, il y a une étude qui a été faite sur ce dosage de repas et il est suffisant pour un collégien.
Voilà, et ils disent officiellement que les collégiens, c'est ceux qui mangent le plus, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est une manière d'affaiblir les gens pour que bah, tu puisses moins résister au vol, etc., quoi.
Et tu peux pas résister aux policiers, même. Tu vois, tu peux rien faire contre eux. Voilà, t'es faible.
Ouais, puis il y a un autre truc, c'est que, enfin, sur l'enjeu de la bouffe, là, c'est que, par exemple, contrairement à l'atoll où la barquette, elle est distribuée, en fait, là, c'est, ça se passe dans un self, quoi, dans une cantine.
Ouais, dans une cantine.
Et du coup, tu manges à 18h, et après, tu manges pas jusqu'au lendemain matin.
Non, tu peux même pas acheter, en fait. Ouais, c'est... Il y a des gens qui ont eu de la chance et ils avaient des visites.
Ouais, ouais,
il y a des gens qui viennent les voir tous les jours et tout. C'est...
Ils ramènent à... ouais,
c'est une malchance, quoi. Ouais, et... Ils leur ramènent à manger. Quoi à manger ? Ils leur ramènent que des trucs industriels, que des gâteaux, des sandwichs
ouais, des trucs plastifiés. Par
là-bas, ouais. Ouais. Ouais, T'imagines si tu passes à l'intérieur de 6 mois et que tu manges pas un vrai repas chaud.
Ouais, c'est tombé.
Tu vois, dès que tu sors, tu manges un repas chaud, tu tombes malade facilement.
Ouais, qu'en prison, tu peux cantiner des choses déjà. Tu peux cantiner une plaque électrique quand t'as des sous, bien sûr. Quand t'as des aides aussi, de l'extérieur, quand tu taffes. Mais sinon, tu manges froid. Hein.
On est arrivé à ce point-là. Ouais, on est arrivé à dire qu'en prison, c'est mieux qu'ici.
Tu sais, j'osais pas te le dire, mais quand ils mettent le moyen de pression en disant vous irez pas en prison si ça, si vous, mais en vrai, quand j'entends les témoignages des gens qui sont au CRA enfermés et moi ayant été incarcéré à Fleury-Mérogis, sincèrement, j'ai vécu moins la misère.
Non.
Quand même si c'est pas, même si prison, voilà, ça reste un lieu d'enfermement, il en faut pas ni pour l'un ni pour l'autre.
On va pas se mentir, quand t'es en prison ici en France. Ce qu'il te manque, c'est que la liberté. Ouais, t'as tout à l'intérieur. T'as vraiment tout à l'intérieur, tout ce que tu veux.
Ouais, quand t'as de l'oseille un petit peu quand même, mais enfin, faut des sous.
Mais si t'as des sous, tu peux vivre bien.
T'as tout, même des matons pourris et corrompus.
Ouais, mais... si tu veux...
En tout cas, toi, c'est l'impression que t'as eue.
Que t'as eue, ouais.
Au moment où t'es passé du CRA à la tôle.
C'est pas juste une impression, c'est une vraie vérité, frère. Mmh. C'est une vraie vérité, c'est que tu es... Quand tu sors de la prison, ils te disent là, tu vas... Bon, t'es libre. Mais quand tu rentres dans un centre de rétention, tu vois que c'est... En fait, quand tu étais en prison, tu étais plus libre qu'en centre de rétention. Oui. Bah, tu étais en prison, t'avais un téléphone avec... caméra, ouais. Tu peux communiquer avec...
Oui, mais illégal, ça c'est parce que t'as eu de la chance de pas te faire attraper. Mais effectivement... T'as quand même... C'est moins...
Attention, tu reviens presque en tam-tam, quoi.
Ouais, c'est quand même que géré c'est... par des flics, en plus.
Ouais, donc, les gens qui sont en centre de rétention, c'est des gens qui parlent que à l'étranger. Ouais, c'est des gens qui parlent qu'à l'étranger. Donc, pour vous faire bouffer plus l'argent que ta petite monnaie que t'avais gagnée pendant que tu étais ici, ben, tu l'achètes que des cartes, et tu parles avec des petits téléphones.
Non, pire.
Ça, c'est...
En plus, la plupart des gens qui sont en centre de rétention, ce n'est pas des gens qui sont habitués à la prison et tout ça, généralement, la plupart du temps. Comment t'expliquer ? Moi, quand je suis de la banlieue, et quand mes amis, il y avait leurs cousins du bled qui arrivaient, ils ne faisaient pas de bêtises, ils faisaient tout pour ne pas se faire contrôler par les flics, tu comprends ? Donc quand ils arrivent au CRA et qu'on leur met la pression en disant « tu iras en prison si tu fais ça », en vrai, ils ont peur, la plupart.
Ouais, non, il y a des gens qui sont... qui sont arrivés au centre de rétention par une vérification, par une simple vérification. Et Il allait au travail normal.
Par un simple délit de faciès, on appelle ça. Ouais. Parce qu'ils sont tombés sur des flics racistes, ils se sont dit, lui, on va le contrôler. Et ça s'appelle du délit de faciès pour moi. Et c'est pour ça qu'ils arrivent en centre de rétention.
Au niveau de la police, hein, parce que les rafles, elles sont préparées par le parquet, la préfecture et tout. Ouais, après, juste pour dire, là, ces dernières années, il y a quand même un vrai mouvement où il y a de plus en plus de gens qui sortent de tôle, qui sont envoyés au centre de rétention, quoi. Et c'est vraiment un truc qui est mis en place. Ouais. Il y a un lien systématique entre l'administration pénitentiaire et les préfectures.
Parce qu'il faut l'expliquer, il y a des gens qui font des années de prison. Et il y a une date de péremption sur les cartes d'identité. Et si on ne te le dit pas, ou si tu ne fais pas les démarches toi-même, ou si tu n'as pas des gens qui t'aident, tu ne peux pas renouveler ta pièce d'identité. Après, effectivement, ils enlèvent aussi la nationalité à certaines personnes.
Voilà. Ouais. De plus en plus, c'est facilité de...
Ouais, j'ai déjà vu des gens comme ça. Ils ont grandi ici en France. Il ne connaît pas chez lui, ce n'est pas de sa faute. Tu vois, il est arrivé ici, il avait 20 jours.
Il ne connaît même pas le bled, en vrai.
Il ne connaît même pas. Si je te parle de quelqu'un, il n'a jamais été au bled. Mm-hmm. Ouais, il est arrivé ici.
Mais il n'est pas né ici, il est né au bled. Et quand
il est arrivé ici, il avait 20 jours.
Donc il a
c'est pas de sa faute, il ne connaît rien du tout. Mm-hmm. Ouais, il est arrivé ici. Bon, il a fait deux, trois fois à la prison. Mm-hmm. Ils l'ont retiré ses papiers.
Ouais, parce que maintenant, du coup, n'importe quoi justifie une menace à l'ordre public. C'est un truc hyper large. Et du coup, en fait, n'importe quel délit quasiment permet de justifier le retrait du titre de séjour, quoi. Bref, et du coup, là, tout ce qu'on vient d'expliquer, en fait, c'est l'ambiance qu'il y a dans les centres de rétention déjà en ce moment. Mais encore plus fort il y a un an et demi, là. Parce que c'est le moment où, du coup, cet allongement de la rétention, là, des 3 mois à 6 mois, etc., c'est un truc qui commence à être généralisé, quoi. Et du coup, donc là, on voulait revenir un peu sur... Il y a une révolte collective en fait dans le centre de rétention, et il y a deux feux qui partent, et il y a deux bâtiments qui sont brûlés, quoi.
Qui sont brûlés. Bon, un bâtiment il s'est brûlé à moitié, et un bâtiment il s'est brûlé presque en entier. On n'avait même pas besoin d'arriver jusque là en fait en ce moment là. Ouais, on parlait doucement et correctement avec tous les responsables qui étaient là-bas. Vous êtes en train de marcher sur la loi. D'accord, on est en centre de rétention. D'accord, on n'a pas de papier, on est en centre de rétention. Ça, d'accord. Ok. Ça, on a compris. Mais dans la loi, c'est 3 mois. Pourquoi on passe plus? Vous êtes des gens que normalement vous représentez la loi. Que vous ne pouvez pas marcher sur la loi.
Ouais, ils allaient au-dessus des lois, en fait, tout simplement, ouais.
Dans la loi, c'est écrit 3 mois. Avant, c'était 45 jours. Après, je ne sais pas combien, c'est augmenté jusqu'à 3 mois. Pourquoi il y a des gens qui passent plus que 3 mois? Normalement, tu n'as pas le droit de passer 91 jours. Ouais. Ils n'ont pas le droit de te faire passer ça.
C'est un vice de procédure, tu dois sortir immédiatement, normalement, non?
Un vice de procédure, c'est autre chose. Mais quand tu dois passer 3 mois...
Ah oui, tu n'as pas resté plus, ouais.
T'as pas resté plus là-bas. Mm-mm. 91 jours, non.
Et en fait, ça, c'est des pratiques qu'il y avait déjà au moment des 45 jours. C'est-à-dire, au moment où ils ont passé la loi là, des 90 jours, l'allongement, ça faisait déjà plusieurs mois, années, que la préfecture, elle essayait ça. Par des interdictions de territoire, les gens doublaient leur rétention. Et donc, ils faisaient 3 mois, en fait, au lieu de faire 45 jours, quoi. Sauf qu'après l'allongement, ils en ont plus besoin pendant un temps.
Oui, mais 3 mois, c'est une peine.
3 mois, c'est une peine.
Bien sûr que c'est une peine.
C'est une peine, c'est pas un centre de rétention, ça.
Et 6 mois, c'est encore... Enfin, 6 mois, 9 mois, en fait, ça devient des vraies peines longues. Quoi. Enfin, et du coup, comment ça se passe après, en fait? Parce que il y a ce moment-là, donc...
En fait, il y a eu une révolte qui a commencé la nuit, la veille. Oui, la veille, on a commencé à parler avec les responsables qui étaient là-bas. On a dit, on veut parler avec un responsable. Dès qu'on va parler avec quelqu'un, ils disent, non, moi, je fais juste mon travail. Non, moi je fais juste mon travail. Dès que tu vas parler avec quelqu'un, il dit, moi je fais juste mon travail, parle avec le responsable. Mais c'est qui le responsable, en fait? Il n'y a pas de responsable, il ne vient pas nous voir, le responsable. En fait, il est responsable sur quoi s'il ne vient pas nous voir? Et il ne voulait pas nous montrer ce responsable-là. La veille, on a essayé de sortir. On a essayé de s'enfuir. Mais on a réussi à ouvrir un portail. On n'a pas réussi à ouvrir le deuxième.
Vous étiez beaucoup?
Ouais, presque tout le centre.
Ah ouais, quand même.
Ouais, on a essayé d'ouvrir. On a réussi à ouvrir, hein. Mais le deuxième, c'était un petit peu plus dur. Comme c'est bien condamné, c'est un petit peu plus dur. C'était un peu plus dur pour l'ouvrir. Mais quand les flics de nuit ils sont arrivés, ils ont arrivé et ils ont pu arriver à nous calmer. Ils ont dit ouais, demain il va y avoir un responsable, demain matin il va venir vous parler. Calmez-vous, demain matin on va régler ça.
Et le matin ils ont ramené plus de renforts, non?
Le matin, ils ont ramené quelqu'un qui, en fait, qui est... Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai deux secondes, je ne sais même pas c'est qui. Je sais savoir c'est qui. Allô. Ça va,
Alhamdoulilah. Attends, on finit nos chiffres maintenant. Hein.
Mm-hmm. On était où?
Tu disais que le lendemain matin, du coup...
Je t'ai demandé s'ils avaient
ramené... ramené un responsable qui est en fait qui est plus raciste. Okay. Il voulait rien comprendre. Vous êtes là, vous restez là. Quand le procureur dit que vous sortez, vous sortez. Dès que le procureur n'a pas dit que vous sortez, donc vous restez là.
Okay.
Donc, j'aurais parlé d'une manière, genre, moi j'ai rien à foutre en fait.
Ouais, s'il vous aidait.
Ouais. Okay. Ouais. Moi ça arrive 18h, je rentre chez moi, je rentre voir ma famille, mes enfants, j'ai rien à foutre de vous en fait. Mm-hmm. Alors, moi ils m'ont donné ce poste là, je les tiens comme ça et je m'en fous.
Ouais.
D'accord. Ça a commencé. On a commencé dans la zone 1, là où il y a eu le feu. Tu as commencé à se battre avec les... Pas se battre. Voyons, on s'est pas battu parce que... Voyez, si tu te bats avec... si tu te bats avec 120, ça...
Ils ont gagné, ils ont gagné.
Même pas une dizaine de policiers, c'est... On est déjà plus fort. Mm-hmm. On a commencé juste à parler avec eux. Parler avec lui, regarder avec le responsable, nanana, ils ne voulaient rien comprendre. Ça a commencé en fait, et les gens de la zone 2, ils ont commencé à arriver dans la zone 1, les gens de la zone 3, ils ont commencé à arriver dans la zone 1. Et ça a commencé dans la zone 1 là-bas, on a commencé à se battre directement, ils ont ramené, ils ont commencé à gazer. Dès qu'ils ont commencé à gazer, c'est là où l'affrontement il a commencé vraiment. Parce qu'on n'avait pas besoin de ça, on était juste en train de parler. On était juste en train de parler avec
eux. C'est même pas un truc qui a été prévu en vrai, c'est sur un coup de tête.
Non, ça a commencé direct, c'était de l'impro.
Ouais, ça a commencé
directement. Dès qu'ils ont commencé à gazer, les gens ils ont commencé à s'énerver. Pourquoi on se fait gazer en fait? On n'est pas des mouches. Ouais, on est en train de vous parler, c'est tout.
Mm-hmm.
Pourquoi on se fait gazer comme ça? Parce que juste, je t'ai parlé un petit peu agressivement, parce que je suis énervé, vous voyez ma situation, tu vois. T'es avec moi 24 heures sur 24. Tu vois vraiment ma situation, tu vois vraiment ce que je vis.
Grave.
Juste parce que je vous ai parlé, parce que j'étais énervé, j'ai parlé un petit peu à haute voix, tu me gazes.
Et que je t'attends depuis quand même quelques jours, puisque je vous réclame depuis pas mal de temps. Parce que ça faisait pas mal de temps que vous vouliez qu'il vienne.
Lui, en fait, le responsable, il a parlé même pas 10 minutes avec lui, après, c'est barré. Bah, le reste,
ah ouais.
Le reste, c'était avec la police civile et la police. Et la PAF.
Mmh.
Ouais, le reste, lui, il a parlé même pas 10 minutes avec nous. Il a choisi c'est qui s'est parlé en français. Il y avait 2-3 personnes qui savaient parler français. On lui a expliqué la situation. On a dit voilà, il y a des gens qui passent plus de 3 mois, il y a des gens qui passent des 6 mois. Pourquoi tout ça?
Ouais, c'est clair.
Vous êtes en train de marcher sur la loi en fait. Est-ce que vous savez ou vous le savez pas? Si vous le savez pas, on est là pour vous le rappeler. Il dit non, moi j'ai rien à foutre, en fait, je m'en fous de vous, passez 6 mois, 3 mois, 9 mois, 1 an, je m'en fous de vous. En fait, quand le procureur il vous donne
l'autorisation de sortir.
De sortir, vous sortez. Sinon, vous êtes là et vous restez là dès que j'ai pas le titre pour vous quitter le centre. Mais il est parti au bout de quoi, 10 minutes de discussion, il est parti. Il avait d'autres choses à faire. On a continué à parler avec les gradés des policiers. Eux, dès que tu parles avec eux, c'est pas moi le responsable. Moi, ils me disent de faire ça, je fais ça.
Ils se rejettent la faute.
Ouais, et quand vous parlez avec des gens qui sont là depuis 6 mois, il y a des gens qui sont mariés, des gens qui ont des enfants. Ouais, il y a des gens qui ont... Le seul moyen de faire nourrir ses enfants, c'est lui, en fait.
Ouais, je sais.
Et il est là pendant 3 mois. Et ses enfants et sa femme, ils vont manger de quoi?
Et puis lui, il pense à ça à l'intérieur. Putain.
Si on parle des jeunes, peut-être il y a des gens qui peuvent résister, il y a des gens qui peuvent résister, qui sont célibataires, ils n'ont rien à faire. Ouais, ils peuvent résister 3 mois, ils vont dire, ouais, on est là 3 mois, après on va sortir, genre, on s'en fout, on va reprendre à zéro après. Tu vois des gens qui ont des enfants, qui est là jour et nuit. En fait, il y a des gens qui ont commencé à fumer à l'intérieur. Et on saute dans la tension, il y a des gens qui ont commencé à fumer, tellement le stress. Il est là jour et nuit, il est en train de penser comment il va faire, en fait, comment il va nourrir ses enfants. Est-ce qu'ils ont mangé, ils n'ont pas mangé, enfin, sa femme, elle fait quoi?
Et du coup, toi, tu nous expliquais que donc, suite à cette discussion, ils ont commencé à vous gazer. C'est là où il y a eu tout le monde qui est venu des trois zones.
Oui, des trois zones, on s'est rejoint là-bas. On a commencé l'affrontement là-bas avec eux. Dès qu'ils ont commencé à gazer, ça a commencé directement, en fait. Moi, j'appelle pas ça un affrontement parce qu'à la fin, il y a rien. Voilà, des deux côtés, il y a pas eu un seul blessé. Donc c'était juste, c'est juste en fait de quelque chose qui c'est, en fait c'était, comment dire, il y a pas de fumée sans feu, mais ça c'était juste une fumée en fait. Il y avait pas de feu. Tu vois, le feu il a commencé après. Tu vois, quand les gens ils ont vraiment vu qu'il n'y a pas de solution, en fait, bon, ils ont dit vas-y, alors on n'a rien à faire, on est là toute la journée, on n'a rien à foutre, en fait, on n'a rien à faire, on va casser la routine directement. Voilà. Pourquoi des centres de rétention comme ça existent? Ils ont parti, ils ont mis le feu dans le premier bâtiment, dans le deuxième bâtiment. Après, ils ont mis le feu dans le premier bâtiment. Et le feu, il est éclaté là-bas. Et après, quand ils n'ont pas laissé les pompiers rentrer pour éteindre le feu. Parce qu'en fait, c'était pas le but d'éteindre le feu. Le but du feu, c'était pas de cramer quelque chose. Tu vois, c'était de faire
du bruit pour se faire entendre.
Ouais, exactement, de mettre. Comme si t'es.
C'est un cri d'alerte. C'est un cri d'alarme.
Tu vois, t'es dans une île.
Ouais. Et tu jettes la fusée pour faire voir qu'il y a du monde à l'intérieur.
On a mis du feu pour que les gens ils sachent que
on existe.
Il y a un centre de rétention ici. Il y a des gens qui sont là à l'intérieur, en fait. Est-ce que vous le saviez ou pas? Mais même avant de faire ça, moi-même, personnellement, j'ai été parler avec avec la CEMAD.
Ouais.
J'ai dit, écoute, on veut ça avant que quelque chose de mal éclate. On veut au moins un numéro de journaliste qui vient voir. Il y a des journalistes qui sont en train de chercher en fait quelque chose pour faire.
Ouais,
en fait, ils ont rien à faire.
Un sujet à faire et.
Ben donnez-nous un numéro de journaliste. Vous pouvez le faire, vous. Donnez-nous un numéro de journaliste. On les appelle qui vient ici. Dis non, en fait. On ne peut pas vous donner un numéro de journaliste, on l'a pas sur la main comme ça. Hein.
Mmh. Pas Internet sous la main.
Et puis on parle de la CIMAD.
T'as un PC. Ouais, t'as un PC, tu peux.
C'est ça.
Juste rentrer sur Google et tu vas trouver. En fait, ils ne voulaient pas. Mmh. Elle ne voulait pas.
Ouais, c'est ça, tout simplement.
Parce que. Je suis sorti, j'ai dit, en fait, les gars, je suis parti pour chercher un numéro de journaliste pour qu'ils viennent voir l'association ici. Ils ne veulent pas. La CIMAD, en fait, depuis le début. Quand tu arrives là-bas, quand tu arrives nouveau là-bas, tu peux croire à tout le monde, tu peux faire confiance à tout le monde. Tu vois, les gens là qui disent ouais, non, on veut juste vous aider. Quand tu arrives, quand tu as 2-3 jours, une semaine, tu les crois. Bon, après, avec le temps, tu vois qu'ils sont en train de se foutre de toi en fait. Même eux, tu vois, ils sont là, ils disent qu'on veut vous aider, mais en fait, ils travaillent avec l'État, même eux, ils travaillent avec l'État. Malgré qu'on n'est pas contre l'État. Mais eux, ils travaillent d'une façon de nous faire couler encore plus.
Et moi, je voulais juste rappeler un truc, après on va faire une pause. C'est que la CIMAD, par contre, les salariés de la CIMAD, quand ils ont décidé de leur retrait pour leurs conditions de santé pendant le Covid, ça a fait le tour de toute la presse. Et là, ils avaient des numéros de journalistes pour parler d'eux. Quoi. Mais c'est vrai que, par contre, ils ne filent jamais des contacts de journalistes aux prisonniers quand ils sont en lutte.
Non, parce que ça, c'est pas pour leur bénéf, quoi.
Exactement. Et du coup, là, on va faire juste une petite pause et après, on revient.
Thank you. dropped from out the clouds, had to change form. Flooded the plains, had them praying for my brainstorms. I'm a master, peace from divine. A worker, I got a bit of mob trying to frame John. I'm here to win ever a conflict with a postcode drawn to the pros and the cons split. Professionals, been robbing hoods with a palm flick. Gave to the poor and the black, the stigmata of convict. See the cross we bear is too familiar. Embedded in the home of the brave, the darkest of interiors. Saw street scholars and soldiers defect. Cause they post-traumatic stress on the American experience. Go off in. I'm finna go all in, murk every line. Came before this delivery, make our friends. See my heart bleed from the hardship of my origins. My great-grand sold for a band at Southern auctions. It's a razor edge of my cadence that's shredded through these paper trails. Only alphabet boys I trust is inner wire nails. Only alchemy justify the nuggets I get spelled. In the city idols trying to be the next Ida Wells rock.
I don't know what you might have heard, but we ain't going nowhere but up. Got a whole squad dressed in all black, got the streets on notice. What up? They want us in the same place. Ain't nobody ever gonna really change nothing but us. Hello, this is revolution. Get on up.
Born queen with a street type of etiquette. That's why I rule over every subject and predicate. Scrawl these syrian indictments on every edifice. And balls on my holy cabal. The only evidence left to use the venom in my rap tone. Cause more often than sweet, life served vinegar in black homes. More specifically with fire lit them crack stones. War on drugs turn a fiend a felon in a snap gone. Inspired I am my diatribe. Cause polished lies try and tell us that Shabazz is the diatribe. So I'ma turn this pen and tab into a tabernacle. So them jeans can't distinguish God from me. I get spit the 12 Jews to free him from the 13th. This a clear view like baby seeing from the first blink. They can buy the spear from my nation, cut the purse strings. Gene Pool established ancestors was the first link. Guarantee we finna recoup. Stuntin' recover, got name gold on the molars of every tooth. We buying back the blocks like Wall Street pursuit. We failed a couple of times, the rise absolute. Trust.
I don't know what you might have heard, but we ain't going nowhere. But got a whole squad dressed in all black, got the streets on notice. What up? They want us in the same place. Ain't nobody ever gonna really change nothing but us. Hello, this is revolution. Get on up. I don't know what you might have heard, but we ain't going nowhere. But got a whole squad dressed in all black, got the streets on notice. What up? They want us in the same place. Ain't nobody ever gonna really change nothing.
Vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous appeler, c'est au 07 53 10 31 95. Le 07 53 10 31 95. Ce n'est plus le même numéro de téléphone qu'avant, c'est un nouveau numéro. Donc surtout, surtout, prenez note, 07 53 10 31 95. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Et puis, on va continuer...
On voulait, on voulait continuer un peu la discussion avec toi. On s'est arrêté sur le moment de la révolte. Et nous, on se demandait un peu comment ils ont désigné les gens. Tu vois, est-ce que ça a été... ils ont choisi des gens au pif? Est-ce qu'ils ont dit « Ah, on s'est basé sur des images ». Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes arrêté immédiatement?
En fait, avant tout ça, avant de désigner les gens, il y a eu un spectacle de CRS qui est rentré. On n'a jamais vu autant de CRS dans ma vie. J'ai jamais vu ça. Il y a eu autant de CRS, peut-être je peux dire une centaine. Une centaine de personnes des CRS qui sont rentrées à l'intérieur du centre pour tout boucler. Ils ont commencé à boucler des gens dans des coins. Ils ont commencé à revoir des caméras. Il y avait même des gens qui étaient en train de filmer avec leur propre téléphone, avec leur propre cam.
Avec, enfin, avec des caméscopes. C'est des flics et...
Ouais, c'est des flics. Il n'y a que des flics là-bas, en fait. Ouais, il n'y a que des flics. Et j'en ai vu une des CEMAT qui était en train de filmer aussi.
Oh, honte à elle. Honte à elle.
Ils étaient en train de filmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi. En fait, pour nous désigner, ils ont eu de l'aide des caméras. Ils ont des caméras super bonnes.
Voyez. Ouais. Enfin, ils sont super bonnes quand elles sont là pour incriminer les retenus. Mais quand les retenus sont tabassés par les flics, elles ne fonctionnent pas. Tu vois ce que je veux dire?
Quand c'est pour toi, ils vont dire... en fait, la caméra dans ce coin-là, elle ne marche pas.
Ouais.
on sait pas ce que s'est passé, c'est vrai ou pas. Parce qu'il y a eu déjà, quelqu'un qui a essayé de s'enfuir là-bas. Il a été tabassé, vraiment tabassé. Ils ont cassé les pieds, il a eu des fractures dans la cheville et tout. Il a essayé de s'enfuir normalement. Normalement, de ce qu'on a entendu parler, c'est que tu as le droit d'essayer de s'enfuir là-bas, c'est pas une prison. Donc, tu essaies de t'enfuir une fois que tu dors, ils ont rien pour toi. Parce que eux, leur travail normalement, c'est de sécuriser l'intérieur, pas l'extérieur. Lui, il a essayé de s'enfuir, il a essayé de sortir. Ils l'ont attrapé à l'extérieur, ils l'ont tabassé. Tu peux pas faire ça, tu peux pas tabasser ton ennemi comme ça en fait.
Non.
Même si quelqu'un qui je sais pas, tu peux tuer quelqu'un, mais tu peux pas le tabasser de cette façon-là en fait. Tu peux pas le torturer comme ça.
Mm-hmm.
Et quand
alors qu'ils il a voulu
revoir les caméras et tout pour leur montrer que c'était vraiment regarder qu'est-ce qu'ils m'ont fait et ils m'ont tabassé avec une haine. On dit non, en fait, il y a pas de caméra dans cette zone-là.
Et la personne dont tu parles, elle a été poursuivie. Parce que le délit d'évasion n'existe pas, mais par contre, ils appellent ça tentative d'éviter une mesure d'éloignement, quoi, enfin, refus de se soumettre à une mesure d'éloignement.
Ouais.
Et dans ce cadre-là, il a pris 8 mois, quoi, pour refus de test PCR et cette tentative.
Le test PCR, c'était pour. Ouais, moi, c'est ça qui m'a rendu encore plus dingue, en fait. C'est que, en général, les gens pour le test PCR, ce qu'ils prenaient, c'était maximum des 3 mois. Et pour cette personne-là, ils l'ont donné 8 mois pour le test PCR.
Exactement. Et on rappelle que c'est un délit qui peut aller jusqu'à 3 ans, quoi. Et qu'en fait, du coup, ça laisse quand même beaucoup de marge de manœuvre au juge pour condamner en fonction du profil. Parce qu'en fait, c'est aussi ça le truc, quoi. C'est en fonction de qui t'es, et bah, tu peux prendre 3 mois, tu peux prendre 6 mois, tu peux prendre 8 mois, etc. Quoi.
Mais moi, je comprends pas que quand cet article a été écrit, quand ils ont fait cet article-là pour que le test PCR, c'est un délit, en fait.
Je sais même pas si c'est l'article de loi qui est sorti pour ce truc-là.
En fait, c'est pas un article de loi. Ils ont utilisé cette loi-là dont parlait Alex, qui est refus d'une mesure qui permette l'éloignement. Et donc, ils ont utilisé cette loi-là. Mais en fait, là derrière, après, il y a eu les plus hauts juges français qui ont dit non, ça s'applique pas, c'est pas vrai. Voilà. Mais pour l'instant, il y a tous les gens qui ont fait.
Ah oui, parce que c'est rien à voir. Le test PCR, il n'a rien à voir d'une mesure d'éloignement.
C'est exactement
ça. C'est deux trucs différents, vraiment.
Et t'as complètement raison. Et même les plus hauts juges l'ont dit. Mais c'est comme d'hab, ils le disent 2 ans après. Et pendant ce temps-là, il y a encore des gens qui sont en prison, encore aujourd'hui, à cause de ça, alors que ça a été jugé illégal. Mais entre-temps, ils en ont refait, dans leurs mesures de sécurité, ils ont fait voter une loi qui disait, maintenant, le refus de test PCR, voilà, c'est condamnable pour ça. Mmh. Mais il y a eu un long moment où voilà, et tu avais raison. Et à ce moment-là...
Moi, je n'ai pas grande connaissance des lois, mais d'après ce que je pense, c'est si tu veux mettre une loi sur le test PCR, tu le mets dans le...
Ça, ils l'ont fait.
Parmi les articles de la santé, en fait, parce que c'est quelque chose qui concerne la santé.
Ils l'ont fait avec le pass sanitaire.
C'est ce qu'ils l'ont fait après, derrière, avec le pass sanitaire. Mais il y a un délai de 1 an et demi, voilà, où ils vont condamner des gens de manière complètement illégale.
Et du coup, les interdictions de territoire qui ont été données à cette période, elles peuvent sauter parce qu'il y a eu ce rendu de la Cour de cassation. Mais on en aura sûrement parlé déjà dans une émission de décembre, peut-être un peu plus en
longueur. Par contre, là où ça devient très grave, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas l'avoir, ce test PCR, parce qu'ils ont par exemple un problème à la cloison nasale. Et je connais des personnes qui ne peuvent pas, qui médicalement parlant, ne peuvent pas le faire, ce test.
Ouais.
Et vous êtes, personne n'est examiné pour ce test-là. Tu vois ce que je veux dire?
Tu as le droit de refuser, en fait, qu'on te mette un truc dans le nez. Tu as le droit de refuser d'alimenter les labos privés et de faciliter ton expulsion. Quoi. C'est quand même un délire, ce truc-là.
C'est grave.
Quand les prisonniers, pendant l'année, là, que ce soit en taule ou en centre de rétention, les gens, ils ont été testés positifs au Covid, on ne les a pas amenés à l'hôpital, on ne les a pas libérés pour leur dire mettez-vous en quarantaine chez vous, faites attention.
Il y avait des gens qui étaient avec moi qui étaient malades. Pas du Covid, mais ils avaient d'autres maladies. Ouais, il y avait quelqu'un avec nous qui avait de la gale, en fait. Ouais, c'est un truc qui peut passer. Mais ils l'ont laissé parmi nous. Ils s'en foutaient.
C'est ça. Et alors, du coup, moi, je me demandais, donc, pour revenir un peu là sur l'histoire, il y a donc ce moment où il y a une centaine de CRS qui arrivent. Juste pour rappel, je crois que dans ce cras-là, il y a 140 prisonniers. Du coup, ça veut dire qu'il y a quasiment un CRS par prisonnier, plus les keufs, quoi. Enfin, voilà, c'est quand même assez vénère. Et juste pour rappel aussi, en fait, le Ménilamelot, c'est collé à une caserne de CRS. Du coup, les CRS, en fait, ils déboulent pas de très très loin, quoi. Ils sont à côté.
Non, ils étaient juste à côté. Ils ont pas pris longtemps pour arriver. Hein.
Voilà.
Tu vois. Dans le procès, ils ont parlé de je sais pas combien de temps de la révolte a été à la durée avant que la CRS arrive. Mais en fait, les CRS, ils sont arrivés quoi, un quart d'heure après. Tu vois, un quart d'heure après qu'ils ont commencé à gazer, qu'ils ont commencé à gazer, même pas le feu. Quand le feu il a été allumé, 5 minutes après, les CRS étaient là.
En fait, c'est juste le temps qui s'équipe, quoi. Il n'y a pas de temps de transport. Hein. C'est juste que vu qu'ils sont tellement bien en Robocop que ça leur met un peu de temps, quoi.
Ouais, mais... c'est tout.
Et du coup, en fait, à ce moment-là, ils vous mettent. Les CRS, ils séparent tout le monde, c'est ça?
Ouais. Bon, ils ont commencé à séparer les gens, à les mettre dans les coins. C'était pas. Bon, tout se passait dans les radios, on n'entendait pas. Tu vois, tout se passait dans l'oreille. Ils ont commencé à boucler des gens dans les zones. Bon, il y a des gens qui n'ont rien fait, il y avait des gens qui étaient plus vieux. Ouais, ils n'étaient pas dans la manifestation. La police, avant, ils ont parlé avec eux. Ils ont dit, vous, si vous voulez rester avec, avec les manifestants, vous restez avec eux. Mais si vous ne voulez pas que soi-disant quelque chose de mal vous arrive, vous rentrez dans vos zones, vous rentrez dans votre bâtiment jusqu'à quand on finit, on va vous ouvrir encore. Donc, ils ont rentré dans leur bâtiment. Ils ont mis déjà des gens dans leur bâtiment et tout. Après, les CRS, ils ont débarqué. Quand ils ont débarqué, les CRS, ils ont commencé à mettre les gens dans les coins. Dès qu'ils mettent, par exemple, un groupe dans le coin, bon, ils sortent un ou deux parmi eux.
Ok.
Et c'est comme ça qu'on a été désigné par tête. Lui, l'Afghan, le Robeu, le Renoir. On a été désigné comme ça. Ils nous ont fait sortir. Un après l'autre. Au tout départ, on était 8. Ils nous ont mis dans le réfectoire. Normalement, la garde à vue, elle a commencé pas. Elle commence là. Là où, au moment où ils nous ont mis les menottes, ils nous ont mis dans le réfectoire.
C'est ça. Une garde à vue, c'est censé commencer au moment. Alors là, c'est déjà le cas parce que t'es en centre de rétention, mais c'est le moment où on te prive de tout moyen de bouger, quoi. On te pose à un endroit,
ta garde à vue commence là.
En fait, ils sont obligés de te le signifier qu'à partir de maintenant, vous êtes en commission rogatoire et que vous êtes mis en garde à vue, patati.
Non, ils n'ont rien dit de ça.
Oui, mais normalement, ils sont obligés de le signifier.
Après, tu vas parler avec qui? Tu vois, c'est des CRS. Après eux, la police, ils sont mis en retrait.
Okay.
C'est des CRS qui sont. C'est des CRS qui se sont occupés de nous. Tu vois. Ils ont commencé à nous mettre dans les réfectoires. Ils ont mis 2-3 dans le premier réfectoire et le reste dans le deuxième réfectoire. On a été gardés par des policiers. Tu vois, même de dire ces mots-là, qu'on a été gardés, qu'on a été...
Gardés aussi.
Qu'on s'est fait occuper par des... En fait, même pour dire ça, c'est déjà... C'est
un terme comme si c'était des animaux.
Tu vois. Il y avait des policiers qui nous surveillaient, des policiers civils à l'intérieur. De faire avec toi. Moi, je suis resté au moins 2 heures dans le réfectoire. Mais on était dans le réfectoire, on est assez long. On savait même pas pourquoi, en fait. Au début, on savait même pas pourquoi. Ils nous ont ramené des fourgons, ils nous ont ramené dans le commissariat de 95, je crois.
Tous au même commissariat, tu sais.
Je crois, ouais. Je crois, parce que moi j'étais dans une cellule avec 3 autres personnes, mais le reste, je ne sais pas où ils étaient exactement. Et quand on est arrivé au... ils nous ont bouclé, dans les réfectoires. Les policiers, après, 2 heures après, ils nous ont... les fourgons qu'ils devaient nous ramener au commissariat, ils sont arrivés. Je ne sais pas après si c'est calmé ou pas. Nous, on est parti. On est arrivé au commissariat. Et c'est là que la blague, elle commence. Bon, on ne savait pas. Qu'est-ce qu'on fait ici, en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait du mal, en fait, pour être ici? C'est juste qu'on s'est révolté parce qu'en fait, on ne mangeait pas bien. On était prévus du tout. On était prévus même de voir nos familles en caméra. On est censé d'être... Tu vois? Pour des prisonniers, pour des gens qui sont sortis de la prison, ils étaient censés d'être libres. Ils ont passé des années derrière les barreaux. Là, c'est le moment où il va voir sa famille. Là, c'est le moment où il parle avec sa famille. Il est censé d'être libre. Pourquoi il est encore enfermé pour un, même si c'est un petit moment, en fait, c'est un plus pour rien. Pourquoi ça? Pourquoi moi, maintenant, je me retrouve encore en garde à vue? Parce que je me suis...
Alors qu'ils n'ont pas respecté la loi.
J'ai juste dit qu'en fait, vous n'avez pas respecté la loi. Et vous avez... en fait, avant de respecter la loi, vous n'avez pas respecté l'humain, en fait.
C'est ça.
Voilà, vous avez... Moi, tu me donnes une barquette de 100 grammes. Tu me dis, ça, c'est ton repas. Ça, même si tu le donnes à un collégien, il va le jeter. Sa maman, sa mère ou son père, ils vont plus payer la cantine. Et toi, l'État, je sais pas le budget qu'elle donne pour que tu me nourrisses pendant que je suis là.
Mais toi, t'as pas demandé à être là déjà en plus.
J'ai même pas demandé d'être là. Grave. Tu vois, même j'avais de l'argent, on avait de l'argent, on voulait acheter de la nourriture pour être bien. Tu vois, on est là, on va pas changer ça. Ben, on veut juste bien manger.
Ouais, c'est clair.
Tu vois, au moins ça. Ben, on n'a pas de téléphone, on peut pas voir nos familles, on peut pas voir nos proches. Mais moi, on mange bien. Mm-hmm. On est là, on garde à vue parce qu'on a dit, en fait, que vous nous avez pas respecté. Vous avez pas respecté la loi. Vous avez rien respecté, en fait. Parce qu'on n'est pas citoyens de ce pays-là, qu'on doit être traités de cette façon-là. Si vous... Comme je dis, vous les Français, si vous étiez en Afrique et vous perdiez votre papier, est-ce que vous serez traité de la même façon? Jamais de la vie.
Non.
Jamais de la vie.
Ah ben ça, on est d'accord. Ouais. C'est là où tu vois qu'en fait, la situation coloniale, elle continue, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes problèmes qu'on a quand tu es un citoyen français et que tu te balades dans le monde, même si tu prends pas ton visa, que quand c'est quand t'es, tu vois, n'importe où en Afrique et que tu viens en France sans visa, quoi.
Bah ouais. Non, dans certains pays en Afrique, tu peux aller même sans visa. Bah regarde juste la différence. Pour certains pays, tu peux aller sans visa.
Mais pas inversement.
Mais les Africains peuvent pas venir ici.
Ouais.
Tu vois, juste là, il y a une différence raciale, en fait.
Grave.
Exactement. Ah bah, de toute façon, c'est un système raciste, hein, ça. Et le centre de rétention, ça, c'est vraiment la preuve, en fait.
Le problème, il est où? Le problème, c'est que... Non, c'est que les Européens, ils sont rentrés en Afrique d'abord. Ils ont tout mangé, ils ont tout bouffé, ce qu'il y a là-bas. Ils bouffent encore. Ils n'ont rien laissé pour les citoyens dans leur propre pays. Ils viennent ici pour essayer de récupérer 1% s'ils peuvent, juste pour vivre avec, juste pour s'en sortir, pour changer de situation et pour ne pas dire... Et pour ne pas occuper l'État, que toujours rester dans la même histoire. Ouais, c'est les Européens qui mangent chez nous, nous on ne peut rien faire, c'est eux qui viennent, qui prennent toutes nos richesses. Pour ne pas rester dans ce débat-là, on voulait venir ici.
Pour avoir une espérance de travailler. Vie un petit peu plus meilleure, en vrai. C'est ça.
C'est ça. On espérait quelque chose de meilleur. Mais on arrive ici, on sait très bien, tu vois, on n'est pas des cons, on n'est pas débiles. Ben on sait très bien que nos richesses, elles viennent ici en Europe.
Il n'y a même pas photo, bien sûr que oui.
Donc on vient ici pour essayer, pas de la récupérer, mais pour travailler dedans, au moins. Au moins, par exemple, de travailler dans une société de pétrolière ou dans une pompe à essence. Tu vois, au moins un truc comme ça. Mais on arrive ici, on se fait traiter comme de n'importe quoi, en fait. On se fait traiter, en fait... Moi, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai vu ici en Europe, les animaux, ils sont des papiers. En fait, ils leur donnent des papiers, ils leur font des papiers. Tu vois, des chiens, tu vois, des chiens et tout, ils sont, ouais, ils sont mieux traités qu'un être humain, en fait.
Ils ont un truc de santé, là.
Il a un passeport, il a même un passeport, il peut voyager avec. Et toi, autant qu'un être humain, tu peux pas faire ça, en fait.
Mmh. Bon. C'est un truc de fou. Ouais.
T'as un animal qui est en train... En fait, t'es dans un pays qui, soi-disant, et participe dans les, je sais pas quoi, des mains, dans les plus grandes associations du monde, des aides des êtres humains, des aides des pauvres, des aides des je sais pas quoi. En fait, c'est juste un cliché.
C'est que du cinéma. Tu sais, t'as vu, quand, déjà, juste, rien que là, on s'en aperçoit très vite. Quand il y a eu les migrants qui arrivaient en France, ils nous ont dit « oui, faut laisser venir les migrants ». Là, ils sont en train de nous mettre des murs pour pas qu'ils viennent. Ils sont en train de laisser mourir des gens, tu vois, pour pas qu'ils viennent. Alors que c'était, tu vois, c'est vrai, c'était que du cinéma, tout ça, en vrai.
Et moi je me demandais un peu, ta garde à vue, elle s'est passée comment ?
En fait, il y a une personne qui est passée au premier. La personne, elle a tout poucave, elle a tout dit. Cette personne-là, elle est sortie du garde à vue, elle est sortie directement. On ne l'a pas revue. Et quand on a commencé à arriver un après l'autre, au garde à vue, on a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Qui a mis le feu ? Vraiment, je ne sais pas qui a mis le feu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu la personne qui a mis le feu. Donc je peux pas.
Ah, tu ne peux pas la poucave, quoi qu'il arrive.
Je ne peux pas occuper quelqu'un que je n'ai même pas vu, je n'ai même pas entendu. Tu vois. Après, ils ont commencé à nous montrer des photos. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ? En fait, eux, ce qu'ils cherchaient au début, c'est qui il a mis le feu. Pour le mettre, lui, le meneur de tout. Même si ce n'était pas lui le meneur. Même si c'est lui, il est arrivé au tout dernier. Il a juste mis le feu. Pom, eux, ce qu'ils voulaient, c'est que lui, celui qui a mis le feu,
celui
le meneur. Après, on va donner des petites peines à les autres. Juste pour dire qu'on a donné des peines. Tu vois, on les a pas laissés partir comme ça. On les a pas laissés partir comme ça sans une peine. Tu vois, pour montrer que on est en train de donner des peines pour les gens qui révoltent, qui manifestent, qui de je sais pas quoi. Tu vois, pour dire que en fait, t'as pas le droit de parler. Ouais, t'es pas chez toi. Ouais, t'as pas le droit de parler aussi. Je te traite comme je veux. Et si tu parles, tu pars en prison. C'est de l'esclavage moderne. Tu vois ?
Tout à fait.
C'est de l'esclavage moderne. Je te traite comme je veux. Je te mets dans un centre de rétention si je veux. Je te donne à manger si je veux. À l'heure que je veux. Je te dis où tu vas, où tu ne vas pas. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois faire ? Qu'est-ce que tu dois s'habiller ?
Tu deviens un
qu'est-ce
pantin,
que tu ne peux
fait.
Pas s'habiller ? Ouais. Tu vois, même question des sapes, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas.
Ouais, voilà. Le bleu et tout, comme en prison.
Donc. Ouais. Je suis en bleu, ça ne veut pas dire que je suis un policier.
Ouais, c'est clair.
Tu vois, dans une caméra, tu vois vraiment que lui, c'est un civil, lui, c'est un policier.
Ouais, ça, les keufs en civil du Ménilamlo, tu ne peux pas les louper. Hein.
Bah ouais.
Enfin, là où tu les crames bien, quoi. Il n'y a pas de question à se poser.
Non, c'est. Il n'y a pas de photo.
Bah ouais.
Tu vois, tu peux vraiment voir un keuf qui est vraiment balèze et quelqu'un qui mange 100 grammes. À midi, comment il est, tu vois. La taille, elle est vraiment, tu vois. Tu rentres là-bas, je te dis, tu rentres là-bas à 200 kilos, tu ressors là-bas au bout d'une semaine, même une semaine. Même si tu fais là-bas une semaine. C'est un vraiment... Moi, je conseille les gens, genre, qu'ils vont faire des régimes, ils vont en centre de rétention, en fait. Tu vois, c'est un bon régime, là-bas, en fait. Tu fais un bon régime.
Ouais, et puis ils marchent comme des cow-boys, ils sont armés. Enfin, bon, bref, il y a quand même deux, trois trucs qui font que t'arrives à les distinguer, quoi. Et du coup, il y a la garde à vue, elle dure combien de temps ?
La garde à vue, elle a duré 72 heures.
Ouais.
Et 72 heures parce qu'on ne savait pas c'est qui.
Ouais, nous, on a été inculpés. Ils ont mis ça en criminel alors ? Ou en...
Non, c'était toujours en correctionnel.
Okay.
Ouais, c'est toujours en correctionnel. Ils ont incriminé deux parce qu'ils ont mis le feu.
Okay.
Mais le reste, c'était en correctionnel.
Mais normalement, c'est pas 48 heures
c'est
la garde
à vue ? Normalement, c'est 48 heures une garde à vue en correctionnel.
Non, on a passé 3 nuits là-bas.
Ouais.
Ok, mais parce que vous avez été envoyé en mandat de dépôt, non, la dernière nuit ?
On a été envoyé. On a passé 3 nuits là-bas.
Ok, donc comme ça.
C'est 72 heures.
C'était le maximum qu'ils pouvaient nous laisser là-bas.
Ok.
3 nuits, mais je suis en train de dire 3 nuits que moi je dormais sur une matelas, et celui qui était avec moi il dormait par terre et l'autre il dormait par terre. Genre pendant 3 nuits, on était 3, pendant 3 nuits, ben on s'est partagé le matelas quand même. Tu vois, on a essayé d'être égal entre nous. On a essayé d'être égal entre nous. Tu vois, on a partagé le matelas pendant 3 nuits. On dormait par terre. C'était vachement sale, frère. Sale.
Bah ouais.
Les gardes à vue, c'est pas beau du tout.
Ça, on est bien d'accord.
Ouais.
Et du coup, suite à ça, vous passez une première fois au tribunal de Meaux.
On a passé la première fois. Ils nous ont donné une date qui n'a pas été respectée. On est revenu dans cette date-là. Je crois que c'était une semaine.
Ouais, c'était une semaine après.
Ouais, après la garde à vue. Elle n'a pas été respectée, cette date-là.
Et pourquoi vous avez refusé... vous saviez déjà qu'il fallait refuser de passer en comparution immédiate. Comment ça s'est passé?
Non. En fait, ils nous ont... la première fois, les avocats, ils n'étaient pas encore prêts. Tu vois, ils ne voulaient pas... Qu'en quoi, c'est un droit. Moi, je ne comprends pas ce droit-là. Ouais, ils savent vraiment que... dès le début, ils savent vraiment les peines qu'ils vont nous donner. Mais qu'en quoi, c'est un droit. Ils ont dit... Comme les avocats ne sont pas encore prêts, il n'y avait qu'un avocat. Il est venu l'avocat, il nous a dit voilà, vous allez repasser dans 45 jours, en comptant le premier jour où vous allez passer en prison. Donc, où vous êtes passé en prison.
Vous êtes rentré en prison en tant que prévenu, du coup.
Oui, on est rentré en prison en tant que prévenu. On est resté 45 jours en tant que prévenu. Après les 45 jours, quand on est passé, quand on est passé pour le procès.
Le procès, c'est le 5 mars, en gros.
Frère, j'ai jamais entendu parler d'un procès pareil pour un délai pareil. Tu vois, on est arrivé au tribunal, c'était 13 heures pile. On est passé devant le juge, on a fini de devant le juge à 3 heures du matin. T'imagines? On a commencé à se poser des questions. Est-ce que, je sais pas, est-ce que...
Que quand tu es en prison et que tu es déféré pour passer à ton jugement, ils te lèvent très tôt le matin parce qu'il faut que tous ceux qui passent en jugement le même jour ou qui sont convoqués chez le juge partent tous dans le même car cellulaire, tu vois. Et donc c'est très fatigant et très épuisant pour ceux qui
passent en procès jusqu'à 3
heures. À quelle heure vous êtes
parti? Nous, ce jour-là, on est parti vers 11h30.
Ok, ouais.
Non, je crois que c'est la loi à Meaux.
Ah oui, d'accord, ok.
Parce que je suis à Fleury ou à Fresnes ou...
Ouais, ça dépend des tôles où t'es incarcéré. Vous
ouais, dans, une autre tôle, dans une autre tôle, c'est tôt le matin.
Ouais, ça peut être 7h, ça ouais. peut être...
Mais à Meaux, je crois, c'était
vers ça. Vous n'étiez pas tous à Meaux, en fait. Vous étiez tous
non, non, il y avait... Non. On était... Tac, on était... Bon, on était 7. Un, il était en comparaison libre. Et un, il était à Villepinte. Et nous, les 5, on était à Meaux.
Ouais, mais pas dans les mêmes bâtiments, pas aux mêmes étages et
tout. Non, pas tous. On était 3 dans le même bâtiment. Okay. Bon, à Meaux, en fait, c'est côté père, côté impair. Tu vois, donc, il y avait côté père, on était 3, et côté impair, il y avait 2.
Et les prisonniers, quand vous arrivez, ça se passe, l'accueil? Enfin, quand l'info, elle commence à circuler, puisque vous êtes là pour une révolte,
il y a de la
solidarité ou les gens, juste, ils s'en
foutent? Ils ne savent pas, en vrai, au départ, quand tu arrives.
De...
À Meaux, là, une fois
qu'il y a... De qui?
Quand tu arrives...
Ah, des prisonniers.
Ouais, des prisonniers.
Ah non, ils s'en foutent après. Chacun a ses problèmes, délit, tu vois. Ouais, chacun, il est là pour son truc. Donc, ouais, t'es là pour ça, ouais, d'accord, ok, c'est bon. Donc,
c'est juste t'es là. T'es mieux à accepter quelqu'un qui est là pour des délits autres, voilà.
Ouais, c'est ça. Mais genre, à part ça, t'es... Ben, y a des gens, c'est ce que je te dis, quand on leur racontait l'histoire, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a des centres de rétention, qu'il y a des trucs pareils qui existent.
Ben ouais, il y a plein de gens
qui... Un centre de rétention, c'est quoi un centre de rétention?
Et il y a plein de gens qui sont concernés par les centres de rétention, qui sont en taule notamment, et qui ne savent pas du tout que ça existe, et qui mangent ça à la sortie, tu vois, et c'est hyper violent, quoi.
Ben ouais.
Donc... Moi, je suis très contente, en tout cas, que tu sois venue, parce que, justement, je voudrais revenir aux journalistes. Quand il y a eu le feu dans ce centre de rétention, les journaux disaient juste voilà, des prisonniers, des retenus ont mis le feu dans le centre de détention, mais ils n'expliquaient pas pourquoi, tu vois ce que je veux dire?
C'est
là où c'est pas normal. Ils prenaient
que les médias.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est le travail des médias, c'est que.
Ils prenaient que ce que les flics leur avaient dit là-bas, tu vois, et je trouve ça pas cool parce qu'il y a eu une vraie douleur derrière.
S'ils disent que l'État français, elle traite mal l'être humain,
Peut-être ils vont être fait fermer, peut-être ils peuvent plus travailler, peut-être ils peuvent avoir des problèmes, peut-être.
Mais je trouve ça, voilà, de la part du journaliste, ça reste quand même derrière cette révolte, il y a quand même une grosse douleur.
Le journaliste, c'est son travail. Tu vois, c'est malheureux.
Ouais, mais c'est pas ça le travail du journaliste.
Normalement, c'est son travail de dire la vérité, de vraiment ce qui se passe.
Normalement, ils doivent rester
neutres. Ouais, on a été inculpés, ouais, on a mis le feu dans un bâtiment. Pourquoi ?
Voilà, c'est ça le travail du
journaliste. Pourquoi tu ne dis pas le pourquoi ?
Et pendant le procès, ça se passait comment alors ? Parce que vous avez pu... Enfin,
Le procès, il a été fait à plusieurs étapes. En passé, en ressorti, on fait une pause, en passé, on fait une pause, en passé, on fait une pause. Je crois que ce jour-là, le juge, il a travaillé qu'avec nous. Je dis, on est arrivé à 13h, on a fini à 3h du matin.
Ah ouais, c'était la seule affaire pour ce juge.
Ouais.
Et d'ailleurs, pour rappel, ce juge... C'est un ancien juge du JLD du Ménil-Amelot. Et du coup, c'est quelqu'un qui a participé à tout ce système-là d'enfermement dans le centre de rétention du Ménil-Amelot en prolongeant la rétention.
En plus.
Et la procureure, c'est une des personnes qui participait à doubler l'enfermement des prisonniers et des prisonnières au centre de rétention du Ménil-Amelot. Quoi. Et donc, en fait, les gens qui se retrouvent à vous juger, c'est des gens qui ont déjà pris parti, en fait.
Ils sont déjà contre vous, ouais.
Tu vois. Ça leur fait plaisir en fait.
Bah voilà, en fait, vous êtes, enfin pour eux, tout ce qui se passe au centre de rétention du Ménil-Amelot, c'est plus que normal et eux ils sont au courant quoi. Ouais. Tu vois, il y a même pas.
Ils sont au courant, ils sont d'accord.
Voilà, et c'est plus que des complices quoi.
Ils participent, ils sont au courant, ils sont d'accord et ils participent à ça. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc on a été jugé par des. On n'a pas été jugé, on a été préjugé en fait.
Exactement. Bah de toute façon, c'est ce qui arrive généralement. Mais là, là particulièrement, quoi, ça aurait pu être le responsable du centre de rétention qui était juge, ça aurait donné plus ou moins la même quoi.
Ouais, ça aurait été pareil.
Mais du coup, il y a quand même eu ce truc un peu, parce que l'audience, elle n'était pas publique. C'est-à-dire qu'il y avait un rassemblement dehors qui était appelé, tout ça.
Il y avait même des témoins. Il y avait des témoins. Il y avait des gens qui étaient là avant. Il y avait des gens je sais pas, d'une association de je sais pas quoi, des êtres humains. Je me rappelle plus exactement le nom. Il y avait des témoins. Il y avait des gens qui étaient déjà en centre de rétention et ils ont été libérés.
Et est-ce qu'il y avait ces fameux journalistes qui étaient là, sur place ?
Non, moi j'ai pas vu de journaliste, vu de journaliste. Et le problème c'est que le juge il voulait pas savoir pourquoi, il voulait savoir qui a fait quoi, c'est tout. Mais pourquoi on est arrivé à faire ça, il voulait pas le savoir.
Ouais, parce qu'en fait la justice elle en a généralement strictement rien à foutre des motifs de qu'est-ce qui fait que. Pourquoi tu t'es fait péter ? Pourquoi tu manifestes ? Pourquoi tu fais
mais ce qui est très grave, c'est que pendant ces 45 jours où ils étaient en tôle, ils pensaient, la plupart d'entre eux, ils avaient hâte d'avoir ce jugement pour pouvoir avoir justice. Tu comprends ?
Mais pourtant quand tu vas juger quelqu'un, par exemple, qui a fait un meurtre, tu essaies de savoir pourquoi il a fait le meurtre.
T'essayes de savoir pourquoi, parce que ça peut être une circonstance aggravante.
Ouais.
En fait, les motifs, ils les intéressent quand ils peuvent justifier qu'on va te mettre plus de tôle, tu vois. C'est comme le délire de maintenant de est-ce que les gens ils sont sous cacheton. Vu que c'est un facteur aggravant, et ben en fait ça les intéresse et ils vont venir parler aux gens ils vont faire parler les gens sur est-ce qu'ils sont tox ou pas, tu vois.
Ouais.
Mais ils les font pas parler pour qu'ils aient un traitement ou dire en fait ok il faut te libérer plus tôt, etc. C'est parce que juste ça leur permet de mettre plus de mois de tôle, tu vois.
Ah, donc nous ça. Vu qu'ils ont vu que ça nous arrange, ils ne voulaient pas savoir pourquoi.
C'est ça.
Vous avez nui au système et au bon fonctionnement de l'administration qui est ce centre de rétention. Et vous les avez dérangés dans leurs petites habitudes. Et donc, on vous punit pour ça. Et c'est très grave.
Je sais pas, mais je pense que la France elle a quelque chose à montrer au monde qu'elle est
manipulatrice.
Qu'elle est sévère avec les migrants, qu'elle est
injuste, sévère, inhumaine.
Inhumaine, ça. C'est...
Non, elle est pas humaine.
Tu vois, le truc, c'est que il y a quelques années, en fait, tout ça se passait en scred. Et en fait, ce qui est en train de se passer là depuis 2015, il y a un basculement où c'est plus dire genre on n'arrive pas à gérer l'humanitaire, on n'arrive pas à sauver tout le monde. C'est au contraire dire il y a un concours en France et en Europe. À qui va être le plus inhumain, à qui va être le plus violent avec les migrants, ou avec toutes les personnes qui sont étrangères.
Ouais, c'est une compétition.
C'est une compétition. Et en fait, on a totalement basculé, quoi. D'un truc qui disait, genre, on peut pas aider tout le monde, donc on va expulser tout le monde, à un truc de, en fait, maintenant, il faut être le plus vénère possible, c'est comme ça que t'es élu. Et du coup, c'est vraiment un concours. Et au contraire, ils sont plutôt fiers de dire qu'il y a des camps, qu'il y a des centres de rétention, qu'il y a des morts.
Commence déjà à expulser ceux que tu as envoyés à travailler en dehors, tes Français ou tes Européens que tu as envoyés à travailler en Afrique, que tu as envoyés pour chercher la richesse en Afrique, commence à leur expulser chez eux. Ben après, commence à expulser les gens qui sont inscrits en France chez eux. En tout cas, ils commencent à faire déjà ça.
Il serait temps que, en tout cas, c'est clair qu'on arrive à mettre la pression en France et ailleurs sur ces rapports économiques quoi, de domination. Bah, franchement, merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci.
Hyper clair, c'était hyper carré. Est-ce que toi, il y a un truc que tu voudrais rajouter qui te semble important?
Je sais pas, si t'as des trucs à me poser, si t'as des questions à me
dire. Peut-être rappeler les peines qu'il y a eu à la fin de ce procès quand même.
Allait de 4 mois de prison ferme à 16 mois ferme.
Ouais.
Y a une personne qui a pris 12 mois de sursis, c'est la personne dont tu parlais qui est sortie du commissariat avec un contrôle judiciaire. Et voilà.
Qui a été en comparution libre.
Ouais, qui était en comparution libre, ouais. C'est ça.
Mais pas du commissariat, de tribunal.
Ouais, du tribunal, voilà. Ouais. Et sinon, globalement, les gens, après ça, on t'a...
On dit pas sa peine. Hein.
Non. Toi, après ça, on t'a renvoyé en centre de rétention. En fait, ça dépend des gens. Est-ce qu'ils ont été renvoyés en centre de rétention ou est-ce que l'OQTF était plus valable et ils ont pu sortir? Parce que l'administration galère toujours, quoi.
Ouais.
Mais malgré tout, la volonté, c'était plutôt de renvoyer les gens en centre de rétention, quoi.
Non, ça, c'est quelque chose... Tu vois, déjà, dès que t'arrives en prison et que t'as pas de papier, tu vois, les premières personnes de l'extérieur que tu vois, bah, après les avocats... C'est la PAF. C'est eux qui viennent te voir pour savoir t'es d'où, pour te ramener te ramener au consulat ou pour t'envoyer chez toi en fait à la sortie. Tu vois, ils s'en foutent de t'es où exactement, est-ce que t'es en guerre ou t'es pas en guerre ou nanana, tu vois. Juste te renvoyer à la sortie, bon, toi tu viens de ces pays-là, bon, à la sortie tu vas aller au centre de rétention, après on va parler. Et tu fais une étape, et tu vas en centre de rétention, et après tu vas en centre de rétention, tu crées quelque chose, tu reviens en prison, et après en prison, tu vas en centre de rétention. Et la boucle, elle est comme ça. Non, elle est interminable, tu peux pas... Sauf après que si t'as déjà fait de l'argent de dehors, et t'as pu payer un bon avocat, il y a des avocats qui sont connus, qui sont corrompus avec les juges, avec les procureurs et tout. Ils prennent de l'argent pour eux, ils donnent un petit peu aux juges dans l'année. Bon, cette personne-là, tu dois lâcher tel jour. Ils vont te lâcher. Yeah. Pour que l'avocat... Ils ne vont pas te lâcher pour ton plaisir.
Non, ils vont te lâcher parce que tu as payé.
Il y a un autre truc, c'est...
Tu vois, même pas pour ça, pour que l'avocat... Il se fait entendre... Pour que les gens ils se font entendre par cet avocat, de cet avocat-là. Mm-hmm. Et que cet avocat-là travaille plus, il gagne plus d'argent, et les juges, ils les proquent. Il gagne encore plus d'argent avec lui.
Ouais. Moi, je sais pas pour les trucs de corruption et tout, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les ouais non mais ça il y a.
Non mais
moyen,
pourquoi un avocat payant, il peut te faire sortir et un avocat commis d'office, il peut pas te faire sortir.
Bah moi il y a deux trucs pour ça. Déjà les avocats commis d'office, bah, effectivement eux ils sont main dans la main avec les juges, les procureurs parce qu'en fait ils passent leur temps ensemble et que ils ont genre ils prennent 15 minutes pour préparer 10 dossiers. Donc dans tous les cas, même s'ils étaient cool. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit, tu vois. Et le truc, c'est que même les avocats qui sont payés, quand même, la majorité des gens, ils se font prolonger en centre de rétention. Donc, il y a un gros racket, tu vois, tu sais, des prisonniers à l'intérieur.
Non, c'est une racket du début à la fin. C'est du début à la fin, c'est une racket depuis que tu arrives au centre de rétention. T'es là-bas, t'es en train de payer.
Les avocats dont tu parles, par exemple, en fait, c'est des avocats qui vont jusqu'à la cour de cassation. C'est-à-dire qu'en gros, même si la personne, elle est expulsée, un des avocats, là, très connu dont le nom circule, c'est en gros, lui, il va tout le temps, ou très souvent, jusqu'au bout. Et du coup, ça veut dire que des fois, quand le dossier, il aurait mérité une libération, quoi, d'un point de vue légal, même si le juge, en première instance, en cour d'appel, il n'a pas libéré, lui, il va aller au dernier échelon et obtenir la libération. Et en fait, lui, il s'en fout que la personne, elle soit expulsée ou pas. Ça lui donne un rapport de force après avec les autres juges. Ouais. Parce qu'il y a un truc chez les juges de promotion à la con, de il faut jamais être désavoué, etc. Quoi. Après, ça n'enlève pas qu'il y a possiblement de la corruption et tout. Enfin, je pense que c'est juste plein de trucs comme ça qui se mêlent.
Moi, je pense comme ça parce que, tu dis, l'avocat qui s'est fait payer et l'avocat commis d'office, ils ont fait les mêmes études.
Ouais, mais
pourquoi
pas pareil,
celui que l'État paye pour toi ne te fait pas sortir et celui que tu payes de ta poche, il te fait sortir.
Bah, moi, ce que je te disais, c'est quand même il y a un certain nombre de gens qui payent des avocats et qui sont pas libérés, quoi. Ça marche avec quelques têtes. Non, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais il y en a plein. C'est juste des.
Non, mais
c'est
ils se font libérer après. Tu vois, ils se font pas libérer dans la première semaine, peut-être pas dans la deuxième semaine, mais au bout d'un mois, maximum deux mois, ils se font libérer. Ouais, moi, je connais des moi, je connais un avocat qui.
Ouais, non, mais je vois. Je vois de qui tu parles, quoi. Mais vas-y, on ne fera pas de pub parce que bon, c'est quand même vraiment.
Après, on va pas lui faire de la pub, mais lui.
Il en a déjà suffisamment tout seul dans un centre de rétention. La CIMAD donne son blast très souvent. Son nom circule. Il n'y a pas de souci, quoi. Bah, franchement, merci beaucoup. N'hésite pas à revenir quand tu veux.
Il n'y a pas de souci.
Enfin, voilà, à donner des nouvelles et tout. Et bah, voilà, franchement, plein de force à toi.
Merci à vous aussi. Bon courage à vous. Et bonne continuation. J'espère que vous sortirez d'ici, que vous allez. Direct, frère.
Yes. Et ben on va passer un petit peu de musique.
In your window tonight, I can hear the music loud and clear. While I'm walking down the street, see the flashing lights of Christmas cheer blinking to the beat. Where that party at? Right here, 'cause we wanna get down tonight. Oh yeah, baby, you got them big bones. Baby, you got them big bones. Baby, you got them big balls flashing in your window tonight. Baby, you got them big balls. Baby, you got them big balls. Baby, you got them big balls flashing in your window tonight. We get so excited when we see all the pretty lights, red, yellow, purple, white, and green. Christmas delight, where's that party at? Right here, 'cause we wanna get down tonight. Oh yeah, baby, you got them big balls. Baby, you got them big balls. Baby, you got them big balls flashing in your window tonight. Baby, you got them big balls. Baby, you got them big balls. Baby, you got them big balls flashing in your window tonight.
Merci à tous et à toutes. Rediffusion mardi matin.
Mercredi matin, 8h30.
Ouais.
Et surtout, on vous souhaite beaucoup de force parce qu'on sait que la fin d'année, c'est toujours la galère. Que, déjà, dehors, il y a plein de gens qui dépriment, mais à l'intérieur, c'est encore pire, quelles que soient les tôles. Et du coup, bah, voilà, plein de force à vous. On se retrouve en.
On espère qu'il y aura quelques feux d'artifice en face de tôle.
Ouais,
comme tous les ans.
Et commande de la livraison. Faites de la livraison directe, c'est au chaud.
Je te jure.
Et du coup, voilà, plein de force à tous celles et ceux qui sont incarcérés en ce moment. On reviendra en direct, a priori, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, en tout cas début janvier, quoi.
Force, courage et détermination. Et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement.
Et bon fin d'année.
I'm doing it for the bottom, everybody gotta do something. Cuban link two times. Savage. Bitch, I really try with two phones. Yeah, like three cars and two homes. Yeah, nigga, what the fuck is you on? Yeah. Put my feelings to the sand, bitch, we got it back. Why I move to the A is closer to the Nash. I've been fucking with that A, I'm down to my last. Rounds. Yeah.
Lil' cuss been hitting the rock, but I'm needed. I seen him snort a whole half of, like I'm greedy. Fell out with my best friend over 6 grams. Nah, I ain't got a best man, but I got fans. Show you how to stretch 10, turn into 100. I just put 500, nigga, this summer. So anything under 18, bitch, run him. Or anybody paying 45, where you want him? Make it deeper. My nigga got a dark cloud over his soul. We all risk the niggas fucking our hoes. He probably feeling bad, like, baby, I kinda feel. Me, I fly bad, bitch, I'll sell. Man, bitches, I got 12, sad bitches, probably 10. She say I fucked her friend, I probably did. And I don't feel bad, my nigga, I gotta live. Turn that switch on, what kind of lame shit that nigga bitch on? Bring my nigga Apple, should've been home. Won't hit the road with nothing, they got fin on it. Long sleeve caddy with the tin on it. Took her to the set, blew a tin on her. That's your bitch with doggy bone, I been on it. Get deeper. Remember late nights lurking, ratting with the reaper. Remember I lost that little 120 up in the cleaner. Get your shit pushed back, nigga, we been cook rat niggas. King of Woods City, bitch, I been took that, nigga. I ain't finesse city out of shit, nigga, I got fire. Rain truck, caddy, nigga, whatever, I buy.